des femmes,
des hommes,
des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse. Amis auditrices et auditeurs, bonjour. Avec moi aujourd'hui, Chou Aiello, qui est co-réalisatrice dans le cadre du ciné-débat organisé par la LDH Sans pour un toit et le Cinémateur ce 27 avril, autour de deux films qu'elle a co-réalisés, Paese di Calabria et Paese di Resistenza. Bonjour.
Oui, bonjour. En effet, je suis réalisatrice de documentaires. Et je suis dans ce cinéma de Bourg pour présenter le dernier documentaire que j'ai réalisé avec Catherine Catella et qui s'appelle Un paese di resistenza.
Alors, il y a deux films en fait. Il y a Un paese di Calabria ou Un paese di resistenza. Donc vous êtes réalisatrice depuis longtemps. Et d'abord, qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser donc à la Calabre?
Bon, alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à la Calabre, premièrement, c'est
vous avez un peu l'accent marseillais. Vous.
Oui, je vis à Marseille, mais je suis d'origine calabraise. C'est-à-dire mes grands-parents sont nés en Calabre, dans un petit village qui n'est pas loin que celui dont je raconte l'histoire. Et donc, je suis complètement issue de cette histoire de l'immigration italienne. Et qui a été très violente dans nos familles d'émigrés du Sud parce qu'il y a eu un reniement complet du pays.
Expliquez-moi.
C'est-à-dire que mon grand-père et mon père ne parlaient pas italien, même pas en famille. Donc c'était interdit parce qu'il fallait s'intégrer en France, il ne fallait pas se faire remarquer. Quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas trop aimés, donc ils préféraient ne pas se faire remarquer. Et donc l'idée de l'intégration pour eux, c'était de ne plus jamais parler de l'Italie. Donc ils ne parlaient pas du tout la langue et en plus ils ne sont jamais allés en Italie. C'est-à-dire mes grands-parents ne sont jamais retournés chez eux, jamais.
Et donc pour vous, ça a été une question ouverte?
C'est une question ouverte. D'abord, j'étais intriguée. Il a fallu que j'attende la mort de mon grand-père pour savoir de quel village il était originaire. Je ne le savais pas. Et pour trouver ses papiers, pour trouver tout ça.
Quel village?
Alors, c'est un village qui s'appelle Palermiti, qui est près de, pas loin de Catanzaro, en Calabre. Et donc, je suis allée immédiatement. C'est le coup des troisième génération, hein, ça ne rate jamais. Hein. Moins on vous en dit, plus vous voulez en savoir. J'ai appris l'italien au lycée. Évidemment, c'est la langue que j'ai choisie. Et je suis allée en Calabre dès que j'ai su quel était ce village, pour voir s'il y avait de la famille encore et tout ça.
Alors, quel était votre constat? Quelle était votre émotion?
Alors l'émotion, elle était surtout sur ce qui avait été dissimulé en fait. La famille en avait plus beaucoup puisque c'était la génération de mon grand-père et que tous étaient partis en émigration, tous. Donc il restait là-bas une vieille grand-tante qui était vraiment très très âgée et son fils, c'est la seule personne qu'on a retrouvée qui était près de la famille. Mais l'émotion pour moi, elle n'était pas là, elle était plutôt d'être dans cette terre. Et surtout, j'ai remarqué tout de suite, dès ce moment-là, qu'on était sur une terre très pauvre, très malheureuse, très abandonnée, mais très hospitalière, d'une réelle hospitalité. Et le premier groupe de musique que j'ai vu en Calabre, c'était un festival qui s'appelait Calafrica, c'est-à-dire petit village perdu de Calabre où la moitié des musiciens sont des Africains. Et ça m'a absolument séché parce que c'est des gens qui étaient très repliés sur eux-mêmes dans leur petit village. Et donc cet accueil que j'ai pu revoir après en Calabre plus longtemps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et Catherine, ma co-réalisatrice, elle est d'origine sicilienne.
Catherine Catella,
elle est d'origine sicilienne. Donc elle était un peu dans les mêmes démarches que moi. Et voilà.
Et donc, vous êtes une enfant de gens qui sont partis et d'un pays qui est la Calabre. Et aujourd'hui, donc, la situation est inversée. Et de ce pays dont tout le monde est parti, des migrants reviennent.
C'est ça. Et ça, je trouvais ça formidable parce que je trouvais que c'est une vraie histoire de l'humanité, en fait. En fait, de tout temps, comme on dit, les humains, ils sont allés là où ils faisaient mieux vivre, là où on pouvait mieux vivre. Ils ont fui les guerres, bien sûr, mais ils ont fui la pauvreté, ils ont fui la misère. Mes grands-parents, ils n'ont pas fui... J'adorerais dire qu'ils ont fui Mussolini, mais c'est pas le cas. Ils ont fui la famine, ils ont fui la pauvreté. Ils sont venus en France pour manger.
Alors, comme le font aujourd'hui donc, les migrants d'Afrique, mais donc c'est une sorte de cas d'école, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à Ariache, qui est également un village pauvre, dont les habitants sont partis,
c'est ça.
Et où il reste des personnes très âgées.
C'est ça, et c'est ça que j'ai trouvé formidable, parce que Ariache, quand les gens sont arrivés, finalement, et Mimo Lucano, qui est l'actuel maire de Ariache, le dit bien, finalement, ces migrants ont sauvé le village, parce qu'ils sont arrivés. Et dans leur générosité spontanée, très calabraise, hein. Les gens les ont accueillis, leur ont donné les maisons abandonnées, tout ça. Mais ils ont pu monter un projet ensemble qui était de retaper le village. Ils l'ont retapé, ils ont réouvert les écoles, ils ont réouvert les commerces. Et ce village est passé de 700 à 2000 habitants et s'est mis à vivre.
Ils ont redonné l'espoir, ce village s'est remis à vivre, il a retrouvé une richesse humaine et une richesse tout court.
Et une richesse tout court, parce que cette arrivée qui a créé des emplois a fait que des gens qui avaient fui le village, par exemple je pense à Alessio, le garçon qui tient le bar du village, quand il a appris qu'il y avait plein de gens qui étaient à Ariache et qui allaient venir fréquenter le bar, ben il est revenu à Ariache, il a ouvert son bar à Ariache, il est rentré chez lui. Donc ça a créé, l'arrivée de ces migrants à Ariache a créé 70 emplois pour les locaux. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant et qui est très, très positif, parce qu'on pense tous, on est français quand même, hein, et on pense à tous nos villages à moitié abandonnés en France. Donc on voit bien, on pense aux déserts médicaux, on pense à tout ce qu'on raconte sur la ruralité.
Et même ces migrants, ils ont trouvé une forme d'intégration en travaillant.
Oui, eux, ils ont trouvé... Alors, ne sont restés à Ariache. Ariache a accueilli tout le monde. Hein. Ne sont restés de façon pérenne que les gens qui étaient soit en famille, qui voulaient vivre vraiment dans des lieux un peu éloignés pour que leurs enfants grandissent tranquillement, puisque maintenant, il y avait une école à Ariache, soit les ruraux. Parce que ceux qui arrivaient, aussi bien que ce soit d'Afrique ou du Moyen-Orient, d'endroits ruraux qui étaient des paysans, eux, ils ont trouvé des terres qui leur convenaient très bien.
D'ailleurs, on voit un Kurde qui s'est tout de suite trouvé en parenté, mais d'autres avec ses habitants de Ariache, justement parce que la vie, il dit, c'est je me retrouve au Kurdistan.
Ah oui, c'est déjà les paysages sont proches. En plus, on y cultive les oliviers, tout ce qu'il connaît. Et puis, il y a une façon de vivre, une façon d'être qui est très proche. Et Bayram qui raconte ça, ce Kurde, lui, s'est installé depuis 1998. Il s'est installé à Ariache et il y a fait toute sa vie avec sa femme et ses enfants. Et beaucoup de ces Kurdes qui sont arrivés dans les premiers migrants ont acheté des fermes aux alentours et ils se sont installés là-bas. Après, il y a des demandeurs d'asile qui ont vécu Ariache comme un sas, comme du repos, comme apprendre un métier, parce qu'il y avait des formations à différents métiers. Et après, qui sont repartis, qui, pour des grandes villes italiennes, ça c'est les plus jeunes.
L'envie hein. D'ailleurs.
Oui, l'envie d'ailleurs. Et puis quand vous avez 20 ans, c'est comme en France, un petit village de montagne, ça vous fait moins envie qu'une grande ville. Voilà.
Donc, alors là, quand même, on souligne un point important, c'est que ces gens-là, où ils ont travaillé, ils ont appris un métier. On est en Italie, on critique beaucoup l'Italie, mais en France, apprendre un métier...
C'est incroyable. C'est une chose que je ne comprends pas, parce que l'Italie, même aujourd'hui, avec quand même Giorgia Meloni, qui est présidente du Conseil et qui tient un discours extrêmement hostile à l'immigration... qui est classé et à juste titre comme extrême droite, c'est quand même très étonnant que même elle, pour l'instant, n'ait pas revenue sur ce droit que les exilés ont de travailler dès qu'ils demandent l'asile en Italie. C'est-à-dire qu'ils ont un espèce de permis de travail, on va dire temporaire. L'asile leur sera peut-être refusé au bout de 2 ans, mais ils ont le droit de travailler tout de suite. Et ça change le rapport humain avec tout le monde.
Oui, alors que la France, avec la Hongrie, je crois savoir, est le seul pays d'Europe à ne pas permettre donc à ces gens de travailler.
Alors, ils peuvent travailler sur des demandes très longues, au bout de 6 mois, 8 mois.
Oui, avec des complications administratives considérables.
Considérables, hein. C'est des gens qu'on appelle sans papiers, sont débordés de papiers, au contraire, hein. Et c'est absolument terrible, parce que ça met des gens jeunes dans des situations de dépendance.
Des potentiels très intéressants.
Mais oui, parce que on a très bien vu Ariach, et puis dans toute la Calam, maintenant, on le voit très bien. Ces gens sont jeunes. Il y en a qui savent cultiver pour tout ce qui était ruraux. Il y a beaucoup d'emplois de service dans des villages vieillissants. C'est absolument essentiel. Ces gens-là ont été un apport pour le sud de l'Italie, mais un véritable renouveau. Et c'est incroyable qu'en France, où on souffre des mêmes maux.
Pays des droits de l'homme.
Ne parlons même pas de morale, quoi. Parlons simplement de pratique. Parce que si on parle de morale, on va s'indigner, quoi. Mais si on parle même de pratique, on va s'indigner. Parce que quand on voit le nombre de villages qui n'ont plus de médecins, qui n'ont plus de postes, qui n'ont plus d'épicerie, qui n'ont plus d'école, parce qu'il n'y a pas assez d'élèves dans les écoles, et qu'on sait qu'avec ces gens, en étant dans un accueil intelligent et en leur permettant de travailler... Et quand on travaille, on a une relation avec les autres qui est beaucoup plus forte, parce que la dépendance, c'est très dur pour quelqu'un qui arrive. Parce qu'ici, par exemple, on voit des associations merveilleuses, et heureusement qu'elles sont là. Hein. Non, mais c'est vrai. On voit des associations merveilleuses, mais qui n'en peuvent plus. Elles remplacent l'État, et en plus, mais les gens sont par rapport à elles dans une situation de dépendance totale, ce qui est compliqué à vivre pour tout le monde, et pour ceux qui aident, et pour ceux qui sont aidés.
Je voudrais revenir sur les deux films, Chou. Tous ces gens qui arrivent à vivre ensemble, et très bien, et puis il y a le poison qui se met donc dans les veines. Salvini arrive au pouvoir, et on voit comment une population peut basculer.
Oui, et ça, pour nous, ça a été un signal d'alerte, en fait. Parce que quand on a vu ce qui se passait à Ariach, c'est-à-dire le moment où l'extrême droite va se mêler de faire tomber Ariach, parce que Ariach est un village symbolique, parce qu'il y avait un enjeu à faire tomber ce village, quand on voit comment ils vont insinuer ce que vous appelez très justement le poison, là, on s'est dit alerte. Alerte parce que les gens de Ariach, c'était des gens... paysans, crédules, qui, eux, pour un ministre de l'Intérieur, déjà, ils lui font confiance. Ils savent pas, ils n'ont pas d'idée que c'est méchant. Ils n'ont pas d'idée, ils n'avaient pas la moindre idée que les étrangers pouvaient être un danger pour eux. Mais comme on leur dit, et que c'est un ministre qui leur dit, ils disent, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris.
Donc, il y a une relation d'autorité qui s'impose.
Il y a une relation d'autorité, mais même d'autorité morale. Parce que les gens de Ariach, ce sont des gens, vous savez, comme on peut trouver dans nos montagnes, qui ne sont pas spécialement politisés. Donc pour eux, la Ligue du Nord, ça ne leur dit pas grand-chose. Et quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui vient vous féliciter en disant « la Lega du Nord va venir vous soutenir et vous allez gagner les élections », ils se disent « c'est un ministre ». Et quand ils voient que c'est l'État italien qui attaque leur maire et qui l'accuse de 17 chefs d'inculpation, quand même pas rien, ils se disent, il doit bien y avoir quelque chose, c'est quand même l'État qui nous dit ça, c'est ça le poison.
La légitimité.
La légitimité, le pouvoir, la communication, le pouvoir des médias aussi. Parce que tout à coup, on a vu déferler des émissions sur Ariach et des émissions sur Lucano qui racontaient n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi.
Qui tombent dans les cerveaux.
Qui tombent comme des gouttes de poison dans les cerveaux.
Et là, c'est là que le film est très fort, parce que malgré tout, la résistance s'organise.
Oui. La résistance s'est organisée. Et les gens ont été... Alors, elle s'est organisée pourquoi ?
Grâce aussi peut-être à ce maire exceptionnel qui est Mimmo Lucano.
Oui, mais qui était quand même atteint et très attaqué. Moi, je dirais que c'est
grâce à lui. Il a eu de la solidarité autour.
Mais c'est la solidarité autour. Ça, je ne le dirai jamais assez, parce que je sais que beaucoup d'associations, des fois, sont épuisées, des fois, ont l'impression d'être dans le vide. Et vraiment, vraiment d'ailleurs en France, les associations comme la Ligue des droits de l'homme, Kamatak et tout ça ont été des soutiens pour Mimo Lucano. Ils se sont mobilisés. Et les associations se sont mobilisées et elles ont parfois l'impression qu'elles tournent dans le vide. Mais non. Parce que si elles n'avaient pas été là pendant 4 ans, pendant les 4 ans qu'a duré l'enquête sur Mimo Lucano, s'ils n'avaient pas été là pour le soutenir, pour envoyer de l'argent parce qu'il n'y avait plus de quoi vivre pour personne, pour aussi venir à chaque audition de procès, venir manifester devant le tribunal, pour montrer au monde entier, parce que c'était ça la lutte contre le poison, c'était montrer aux gens que non, ce qui se disait sur Mimo Lucano n'était pas vrai. Et que d'accord, il y avait des grands médias, il y avait Salvini.
La vérité n'était pas la vérité.
Mais que cette vérité-là, il y en avait une autre.
Oui.
Et donc, et ces gens, et moi je dirais que c'est ce qui a sauvé Riace, c'est que tout à coup, les habitants de Riace, pendant la première année, ils ont été très sidérés et tout ça, mais au bout de 4 ans, qu'ils ont vu cette solidarité ne jamais faiblir, ils se sont dit, mais on s'est peut-être trompé.
Ils ont compris. C'est un beau message d'espoir
et
de résistance.
Pour moi, c'est un grand message de résistance.
Et un encouragement pour les associations.
Oui. Et qui, c'est pour ça que là, on se promène beaucoup en France avec les associations. D'ailleurs, grâce à elles, on montre beaucoup ce film en France. Mais c'est vraiment ce que j'ai envie de leur dire, parce que moi, je suis très frappée par la solidarité qu'il y a dans ce pays et qu'il n'y a aucun rapport entre cette solidarité immense qu'on sent dans le pays et le discours officiel qu'on entend aussi bien dans les médias que dans les principaux, pas tous heureusement, mais dans les principaux partis politiques.
Alors, un mot, résistons, pour terminer cette émission.
Résistons.
Amis auditrices et auditeurs, résistons jusqu'à la prochaine émission le mois prochain.
Des femmes.
Des hommes. Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.